Pour commencer, je voudrais vous faire la lecture du début d'un texte de Christophe Manon qui s'appelle L'éternité et l'éternité. Juste parce que, suite à ce qu'a dit hier Fabrice Caravaca, l'éditeur de Dernier Télégramme, je crois que Dernier Télégramme est justement le territoire d'apparition d'écritures particulières. Et ce texte-là, entre autres, se dédite aussi, qu'on a entendu hier soir et que vous entendrez cet après-midi, sont pour moi des livres qui confirment l'intérêt et la joie que j'ai de participer à ce territoire-là. Donc L'éternité de Christophe Manon, chant 00. Je suis le corps d'un soldat mort. J'ai 20 ans, comme tous les soldats morts. J'ai été tué il y a plus d'une semaine. Je suis étendu dans la boue, face contre terre, nuque brisée, jambes repliées sur mon ventre en chien de fusil. Mon bras gauche a été arraché. Ma cage thoracique est perforée par des éclats d'obus. Du sang a séché sur mon front. Déjà, les corbeaux picorent mes yeux. Les rats dévorent mes entrailles. Les blattes et les lombrics colonisent mes reins. Les fourmis besognent entre mes omoplates, grouillent le long de mon épine dorsale. Mon cœur ne bat plus. Ma bouche ne parle plus. Je suis le corps d'un soldat mort. Je ne suis plus rien, ou rien, ou peut-être. Sous l'effet du choc, mon casque s'est détaché et a roulé dans une flaque à quelques centimètres de mon crâne. Dans ma main droite, je serre encore mon fusil mitrailleur. Cette fois, je ne survivrai pas à ma mort. Je vais vous lire plusieurs extraits de livres différents, de livres qui ne sont pas encore sortis aussi. Je vais commencer par Brutal, qui était un petit recueil sorti aux éditions mixtes. Brutal. Brutal, avant de devenir brutal, je tends. Brutal. Brutal, avant de devenir brutal, je tends, je me détends. Mon ventre se tend et se détend. Brutal. Brutal, avant de devenir brutal, je tends, je me détends. Mon ventre se tend et se détend. Fond la glace, les icebergs. Brutal. Brutal, avant de devenir brutal, je tends, je me détends. Mon ventre se tend et se détend. Fond la glace, les icebergs, du béton dans mon ventre. Brutal. Brutal, avant de devenir brutal, je tends, je me détends. Mon ventre se tend et se détend. Fond la glace, les icebergs, du béton dans mon ventre, le béton dans mon ventre, en avoir petite, petite, petite. Petite musique des mots, quand elle est là, en boucle, part de mon ventre, qui se détend. Je suis mort. Combien de fois je suis mort, déjà mort, combien de fois mort. Recommencer à zéro, du vide, recommencer à zéro, moins que ça, moins que zéro, chiffre du vide, de l'absence de mots, moins que ça, mort, même pas mort. Combien de fois mort, le mot mort. Mon corps a la mémoire de la mort, mon corps a la mémoire de toutes les morts, celle des vivants qui sont morts. Sans eux, à leur mort, on n'est rien, plus rien, zéro, mort, zéro, on n'est plus rien, on est mort avec eux, on n'est rien. Pas même un chiffre indéfini, zéro. On est mort pour des jours, pour des semaines, des mois, on est mort avec eux. Des fois pour longtemps, encore plus longtemps, des fois pour toujours. Mon corps a la mémoire de toutes ces morts. Ceux qui sont morts, morts, je suis mort avec eux. Mort avec eux chaque fois un peu. Moi, pour ma mort, je ne voudrais pas que les gens meurent à cause de ma mort. Je ne veux pas ça. Je veux que les gens soient plus vivants encore, pas morts. Plus vivant de ma mort. Au propre, au figuré, c'est pas propre la mort. Se faire bouffer par eux, mort, encore chaud, mort, qu'ils dépècent ma carcasse, qu'ils se partagent les morceaux, qu'ils avalent mon sang, qu'ils rongent mes os à laisser que le blanc des os avant de laisser aux chiens, qu'ils mordent ma chair, qu'ils déchirent ma chair de leurs dents, de leur faim, qu'ils m'arrachent le cœur, que je devienne un paquet de viande dans leurs mains, que je remplisse de bouffe leur bouche toute remplie de moi, des calories, que je serve une dernière fois quelque chose. Qu'ils soient repus, le ventre plein et lourd, qu'ils repartent avec le goût de moi en eux, que je sois mort et qu'ils repartent bien vivants, le ventre plein, lourd, vivant, qu'ils me bouffent avant même. Ça, c'est une C'est un prolongement de Brutal. Dans ce recueil, il y avait des textes qui étaient bégayés. Brutal, suite 12. Trinqui, 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 tra, 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 traverse, 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 traverse la nuit. La nuit à la lumière de Pound. Et la froide tapisserie des Cantos. Corps, 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 courant, 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 courant sans tête. Et pourtant, réfléchissant, c'est pas lueur. Miroir. Miroir du jour qui vient. Assemblage épars de peau que la femme d'Homère blanche Ophélie n'arrête pas de défaire. Ferez-vous caca camarade le voyage menant au jour qui vient, mais qui n'arrive pas. Le jour porte encore les cauchemars de la nuit. Le jour, c'est aussi la nuit pour moi. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un texte qui doit sortir en octobre chez Dernier Télégramme. Et qui est un texte un peu différent dans la forme que ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent, parce que c'est un récit. C'est un récit autour de Samuel Beckett. Il y a quelques années, j'ai eu des soucis de santé. Je suis libraire. Et au moment de la rentrée littéraire, j'arrivais plus à lire. Je pouvais pas me concentrer pour lire, c'était un peu compliqué. Et j'ai eu envie de revenir à des fondamentaux. Et le travail de Beckett m'a souvent accompagné dans ma vie. Et quand j'ai eu fini de lire et relire ce que je n'avais pas lu ou que je connaissais déjà de Beckett, je me suis senti un peu seul. Et j'ai eu envie de poursuivre en quelque sorte cet accompagnement, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne. Et j'ai commencé ce texte qui s'appelle « Sans maintenant ». Comme je ne me souviens plus quand il est apparu dans ma vie, je ne me souviens pas non plus quand j'ai décidé de le tuer. Je crois que le premier souvenir de ça, c'était dans ce cylindre. On n'était pas seuls, des centaines, je pense, et pourtant personne de connaissance. C'est peut-être là, au milieu des autres, que ça m'a pris, que l'envie m'a pris de le tuer. On est resté là des jours et des jours, une vie peut-être. Le cylindre n'était pas grand, posé sur son rayon comme une arène construite pour les jeux du cirque. Pas de jeu, pas de gradin, ni spectateur. Juste une foule d'étrangers tout autour de nous. Tous les âges ou presque, des plus jeunes ou presque mourants. Des en fin de vie, c'était le lieu. Et qu'importe encore une fois l'âge. Un lieu pour mourir. Sans issue apparente pour s'évader. Certains s'escrimaient à vouloir grimper. Les murs presque lisses n'y aient des guerres. Souvent, ceux qui parvenaient à s'arracher du sol retombaient après s'être élevés de quelques mètres, à bout de force. Ils retombaient. Et selon la hauteur, se fracassaient les os dans un bruit de craquement. Un bruit que je connaissais d'ailleurs, peut-être de la marche, dans les feuilles à l'automne ou dans la neige en hiver dans mon pays natal. Un bruit de marche dans la lande, quand les pieds se posent sur une branche de bois mort. Ce bruit-là en est le plus fidèle, et la lande n'y est pour rien. À force, on s'habituait à la vision de ces corps tombés là, au pied des murs, à la lamentation de ces presque morts jusque dans leur dernier souffle, leur gémissement après les cris. On s'habitue à tout, dès qu'on passe de l'autre côté des choses. On s'habitue à l'odeur de toutes ces chairs pourrissantes, à ces nuées de mouches nées de la pourriture de ce qui n'avait plus figure humaine. On s'habitue à tout, à ces tas d'os que certains prenaient pour monticules pour gagner quelque hauteur, au moment d'entamer leur ascension. Mais moi, je ne m'habituais pas à sa présence. Tout le reste m'était indifférent, les autres, ces corps, quel que soit leur état de souffrance ou de décomposition, tout m'était égal. Lui seul m'était insupportable. C'est là que j'ai eu envie de le tuer. J'ai saisi dans le tas d'os le plus proche un os long, un fémur peut-être, et me suis rué sur lui. Je l'ai frappé, et frappé, fait éclater son crâne à ne plus voir que le blanc de l'intérieur, une masse blanchâtre, bien qu'ensanglantée. Je lui ai éclaté le crâne à en voir couler l'intérieur, me suis acharné sur cette mâchoire qui ne cessait de me sourire. acharné à ne plus voir dedans, à ne voir qu'une bouillie surnageant au milieu d'une mare de sang. Je me suis acharné à ne plus avoir de force, à avoir les bras lourds, à ne plus avoir de bras. Quand je me suis réveillé, il me regardait, assis, à quelques pas de moi, et me souriait. Je ne sais plus comment nous sommes sortis de cet endroit. Je ne m'en souviens plus. Chapitre 11. Quelque chose cloche, disait-elle. Le dirait-elle encore. Quelque chose cloche, mais pas assez. Quelque chose cloche ou pas. Je vois, sans préciser s'il s'agit d'une image ou d'une vision, ces mains qui se cherchent pour s'étreindre, qui se cherchent. Ces mains étreintes, étreignant, ou tentant de le faire malgré la différence de hauteur. Le lieu, les gens, ou les deux. La différence de taille. Deux mains en une serait possible. La différence d'âge. Des mains aussi ridées que les miennes et d'autres, deux autres. Les mains vont par paires, sauf accident. Beaucoup plus jeunes, plus menues, des menottes. Je les vois. D'abord le corps ou la tête. D'abord les mains s'agrippant, puis les jambes en commençant au sol par les pieds nus. Commencer à ras du sol. Par paires vont les pieds. Quelque chose qui ne cloche pas. Une différence de longueur de jambes de leurs guenilles, mais les guenilles n'y sont pour rien. Ils marchent. Ils marchent en s'agrippant par la main, main étreinte, étreignant. Ils marchent face à nous, comme venant au-devant de nous marchant. Nous qui les regardons marcher au-devant de nous, sans s'approcher pourtant. Le haut du corps semblable aux proportions des jambes. Les bras libres, se balançant de chaque côté de cet enchevêtrement de corps. De chaque côté de façon dissymétrique, si l'on parle de longueur, de ce qui fait une masse qui s'avance vers nous. Sans s'approcher pourtant. Quelque chose cloche, disait-elle. Restent les têtes. Deux collines herbeuses. L'une de blé irradiée de soleil et l'autre dans la pénombre d'un nuage. J'avais dit pas d'image. Deux ovales positionnés à hauteur différente dans le ciel et troués. Des trous noirs, bien qu'on ne distingue pas mieux. Quelque chose cloche suffisamment maintenant. Des trous noirs, j'aperçois, qui marchent vers nous sans s'approcher pourtant. Depuis le temps qu'ils marchent, on aurait dû les croiser déjà, mais on ne les croise pas. Sur ce chemin au bord de l'eau, on n'aurait pas la place de les croiser, mais on ne les croise pas. On ne croise pas des trous noirs quand ils s'approchent de nous, jamais. On ne les croise pas, on s'enfonce dedans. On s'enfonce dans le noir, dans la pénombre qui nous tend les bras. On pénètre ses orbites vides jusque dans la faïence intérieure, à rebondir contre, à s'écraser. Il le sent, lui, qui m'accompagne, qui me suit, qui me précède, qui me double parfois. Il le sent bien que quelque chose cloche, enfin. Il a peur. Je le sens pour la première fois, je sens bien qu'il a peur. Il a peur et tremble, et me prend la main. Nous marchons, mains, étreintes, étreignant. Vers ses crânes aux orbites vides qui s'avancent au-devant de nous, il me serre la main, fort, si fort. Il me serre la main si fort à me faire mal, si fort que quand je me réveille, je suis assis par terre et je me serre fort dans mes bras. Je suis assis par terre, si fort à me serrer si fort que la forme de mes doigts s'incruste dans mes bras. Je suis assis par terre, me serrant fort dans mes bras au bord de l'eau, et lui, dort, assis, à quelques mètres de moi. Il dort tranquille, contre le tronc d'un arbre dont les racines plongent dans l'eau. Chapitre 13. Je suis souvent comme ces animaux qui, pas à pas, tracent leur propre sentier. Si je ne devais garder qu'une chose en mémoire, ce serait ça. Garder juste l'idée d'un sentier tracé de mes pas sur le sol, de mes pas seuls, de mes pas sans lui, qui marque le sol de leur passage. Depuis que nous sommes deux, je ne me rappelle pas être sorti des chemins, des routes ou des sentiers pour arpenter la lande. Les routes que nous empruntons, d'usure, portent la trace de milliers de passants, passeurs, passagers, piétons, hommes, femmes, enfants, animaux, charrettes à bras ou tirées par des bœufs ou des chevaux, troupeaux. Toute la liste des animaux je devrais tenir. J'aime cette image des voitures à cheval, même si je sais qu'en ces temps de voitures automobiles, ce n'est plus guère d'actualité. Je me rappelle du bruit des sabots et des roues ferrées sur les pavés de mon pays d'origine, de l'odeur de crottin dans les rues de la ville. C'est inimaginable aujourd'hui. Je me souviens combien les sentiers, à peine carrossable, était marqué de ces passages répétitifs, des calèches, buggies, diligences et autres charrettes. La nuit, je rêve que seul j'arpente la lande entre un point A et un point B, qui devient alors mon point d'origine quand je rebrousse chemin. Mon point A, dès que je me retourne pour revenir sur mes pas en direction d'un point B que je connais déjà. Elle est là, ma théorie de la relativité. juste dans cette relative fragilité de la direction dont dépend le sens, au sens propre, je préfère, de tout transport d'un point A d'origine jusqu'à un point B d'arrivée. D'autant plus fragile si l'objet même de ce trajet devient le transport lui-même, le déplacement, autrement dit, qui ne s'arrête alors plus. Dont l'objet, au-delà de compter les pas qui séparent le point A du point B et inversement, est-ce alors la même durée dans un sens que dans l'autre, et d'annuler ces notions d'origine d'arrivée, de A et de B, juste de marquer le sol de ces déplacements répétitifs, une sorte d'écriture, en quelque sorte, à ras du sol, qui le marque et le transforme, qui en transforme sa géographie, son relief. Pour ça, dans mon rêve, marchant sur un sentier qui traverse la lande, j'oblique, sans choix particulier, dans une direction aléatoire, jusqu'à ce qu'un obstacle, trou, ravin, arbre, arbuste, nouveau sentier, cabane de berger, bête morte ou humain mort ou dormant simplement, m'arrête dans mon avancée. Je me retourne alors et reprends la direction d'où je suis parti jusqu'à retrouver le sentier d'origine et rebelote. Je repars dans l'autre sens et ainsi de suite toute la nuit durant de mon rêve. Toute la nuit durant, je marche dans mes pas et ceux d'avant avant eux, les mêmes pas pourtant, mes pas. Toute la nuit durant, s'ils me laissent dormir, je parcours la lande à quelques centimètres près le même trajet. Je foule l'herbe rase de mes pas lourds, mes godillots à force, couchant l'herbe menue qui ne se relève plus. Comme une abdication, l'herbe reste au sol. Et moi, je m'oublie dans la contemplation de mes pieds, allant et venant sous moi la belle machine qui m'émerveille, traçant petit à petit ce que j'appellerai un sentier à force. Un sentier connu par aucune carte, un sentier qui n'existait pas le jour d'avant et qui aurait disparu le temps que l'herbe repousse après mon passage. Comme moi, j'aurais aussi disparu. Aussitôt réveillé, mon rêve envolé, mon sentier avec lui, je me remets en marche en me disant qu'il s'agira de mon travail de la nuit prochaine, attendant juste le moment de m'être débarrassé de l'autre pour accomplir mon grand œuvre. Un sentier parti de nulle part, allant nulle part, et donc n'arrivant nulle part, qui ne part de rien pour ne jamais arriver, même s'il n'y a que moi à lui trouver du sens. Mon travail de la nuit, sans lui, aussi parfait qu'une bête sauvage, par habitude l'aurait tracé. Je vais vous lire un extrait du troisième, où l'écriture s'est réduite, c'est-à-dire après s'être dilatée, dans le premier était un rythme assez rapide et des phrases très brèves, avec chaque fois un mot, une idée, quelque chose qui permettait de passer de l'une à l'autre. Le second proposait un rythme de lecture différent avec la possibilité de vivre un peu plus longtemps avec ce qui était dit. Et le troisième, en fait, s'est réduit et apparaît sous la forme de haïku. Je les ai appelés haïku hors saison. L'éloge de l'ombre me guide dans ma nuit profonde mieux que la lumière. Le vent qui traverse les branches basses des arbres nous parle à l'oreille. Croyance en ces mots, figure de la douleur, comme le temps passe. L'allure que revêt le grand pommier de ma cour, l'été, transfigure. Train, dans la nuit calme, déchire l'idée même d'une aube qui n'arrive pas. Brume dans le matin couvre encore tardivement mon corps endormi. L'aube tant attendue, comme les larmes dans la pluie, lave le jour qui vient. Aboiement lointain, chien qui reste là, invisible, ombre passe, silencieuse. En ombre chinoise, branches décharnées dans le ciel appellent les oiseaux. Connaissez-vous bien le poids des pierres s'enfonçant, repris par la terre ? Inframince lueur, entre chien et loup parfois, luciole aveuglée. Lumière sourde et fade, froide attente d'un peu de jour, soleil sur la peau. Dans l'attente paisible, corps qui tend au minéral, absence de douleur. La voix de Ueda, image de mode dans les dunes, me parle dans le cœur. Oiseau dans le ciel, en vagues perfore les nuages, porteur de messages. Veste de chasse, habile, je pose des collets, tends mon prisonnier. Chat, la gueule pleine, goutte de sang encore chaud, ciel sans piaillement. Nuage dans le ciel, peine en transport intérieur, ondée dans le cœur. Brouillard qui me guette, quitte lentement le canal, poussière d'eau dans l'air. Nuage qui défile, ciel changeant, horizon nu, yeux mouillés à perte. Le vent passe et casse, équilibre des forêts, colère de saison. Lynx dans le jardin, mieux qu'un gros chien de garde fait fuir tous les chats. L'idée d'être présent aux choses, à toutes choses, vacille au contact du monde. Pensée vide, corps froid, de quel côté des choses donc sommes-nous maintenant? Suis un peu hors tout, hors monde, hors de ma vie même, dehors tombent les feuilles. À terre et l'ombre, ce qui nous rattrape parfois traîne et nous dépasse. Un peu fasciné, filme le ciel dans une flaque d'eau. Le jour court sans pluie. Tourbillonne les feuilles, corps sans tête dans mes rêves fous, oiseaux tournent en rond. Train en suspension, extension de nos corps là, souplesse provoquée. Un petit bestiaire fait des tours autour de moi. Je hurle contre les loups. Pied à l'horizon, station couchée, regard nu, contemple le vide. Déplacement lent, notre corps comme projectile percutant l'autre. Cri dans canopée, tête tirée sur fond d'azur, vertige à l'appel. Et puis pour finir, comme je respecte jamais vraiment les consignes, au lieu de vous lire le travail d'une seule personne, je vais vous lire le travail d'une seconde, qui est présente, qui est souvent invitée comme éditeur et peu comme poète, et c'est dommage. Donc je vais vous lire le début d'un livre de Fabrice Caravaca, donc l'éditeur de Dernier Télégramme, qui s'appelle « La vie ». Que nous partageons tous. Nous nous sommes avancés dans la nuit. Tout cela est venu jusqu'à nous, poussière. Alors nous nous sommes renversés. Il ne fait plus si noir. Nous ne souffrons pas. Cela ressemble à un grand vide. C'est comme un chant, un cri de joie. Ce sont des mains, des caresses. Il faut que quelque chose nous soit présence, juste une image, des pas dans le noir. Et le brin de l'automne et le vin de l'automne. Nous avons soif. Il n'est plus d'endroit où nous ne sommes pas chez nous. S'avancer et poursuivre sans crainte. Nous commençons. Nous recommençons. Nous ne nous arrêtons plus. Nous sommes ivres déjà de beauté. Nous avançons. Nous n'avons plus le choix. Il y a de grands arbres et des histoires tout en haut Il y a aussi du vert et de la couleur, et aussi de la lumière un peu plus loin. Nous en voulons encore. Nous en voulons toujours. Nous sommes vivants. Longue ligne, devant et derrière, le visage, un autre visage, de la chair, des hommes et des femmes comme nus ou dépouillés, des hommes et des femmes qui respirent. Avaler la nuit en son milieu, comme on tremble de tout son être. Nous touchons le visage, les tempes, nous sentons l'air frais du dehors, nous respirons fort, nous sentons aussi notre cœur battre fort. Nous ne resterons pas figés au beau milieu de nulle part. Nous pensons chez nous, n'importe où. C'est déjà comme si nous marchions, comme si nous avancions indéfiniment et de façon presque imperceptible. Nous ne doutons plus, nous n'en sommes plus là. C'est peut-être silencieux ou alors des cris. C'est la nuit qu'on a avalée. C'est une nuit très ancienne que nous avons toujours connue, qui nous a toujours entourés. Ou bien quelque chose qui ne dit pas son nom. Ce sont des fragments de ciel et d'orage. On croirait des souvenirs, des morceaux de rêves épars, des sortes de sanglots comme emplis de joie sereine. Nos jambes restent comme immobiles. Mais nous, nous sommes en train d'avancer. Paysages de jeunesse égarée, des statues antiques, des peintures venues du fond des grottes, de grandes forêts murmurantes, petites maisons à l'orée, petites réminiscences, nous sommes toujours vivants. Solidement arrimés à la vie. Des choses se passent alentour. Nous sommes des hommes qui émergeons. Nous sommes des hommes qui rêvent. Nous sommes toujours debout, même lorsque nous dormons. Nous n'avons pas peur. Quelque chose est en train d'arriver, et nous avec. Combien sont-ils à dormir debout, à remuer de l'intérieur en silence? Combien dans les cris de la nuit, prêts à se mettre en mouvement et en accord avec leurs rêves? Combien à faire de grands écarts avec le ciel? Je vous remercie.